Conversation avec Silver l'étranger. Première partie.
Merci également d'avoir accepté cette rencontre qui portera, enfin je l'espère, sur ta conception de la théorie qui est peu traditionnelle et encore moins universitaire, hein, et pas du tout académique. Donc, t'inspirant John Cage et Gilles Deleuze, tu joins la théorie à la vie et à l'art en la concevant comme une pratique qui doit s'introduire dans le concret, le particulier, le réel, pour le capturer, le retravailler, le redonner comme une œuvre d'art. C'est-à-dire comme quelque chose qui pose de nouvelles relations, de nouveaux partages entre les choses. En considérant l'orientation éditoriale des numéros de Sémiotexte que tu as dirigés, donc numéros dont la mise en page s'éloigne du dispositif académique, comme tu appelles de « academic stuff », hein, en amalgamant texte, photos, dessins, tags, graffiti. Donc, dans ces numéros qui représentaient pour toi une manière de faire de la théorie, il est tentant de proposer une analogie non pas avec l'esthétique de la contre-culture, mais avec le monde de l'art new-yorkais des années 50. Ce que tu as fait et ce que tu fais encore aujourd'hui, et je tiens à le souligner, tu es l'un des rares penseurs et artistes que je connaisse qui n'a pas la nostalgie qui ne renie pas son passé, hein, qui ne rejette pas du tout son passé comme s'il s'agissait de folie de jeunesse, bon, où on entend souvent des intellectuels aujourd'hui qui disent « Bah, ça c'était dans ma jeunesse ». Donc, ce que tu as fait, je nommerais « action theory », sorte de dripping, d'idées, de concepts, hein, d'images aussi, dont le sens réside en partie dans le geste, hein, qui l'a fomenté. C'est donc de ce geste que j'aimerais qu'on parle, hein, aujourd'hui. Donc, tu as ainsi donné corps à la théorie et non un corps, au sens où tu fais corps avec l'objet que tu théorises, hein, ou dans tes conversations, tu fais corps avec la personne avec qui tu converses, du moins avec ses idées, avec sa pensée. Donc, c'est un peu, c'est sans doute dans ce sens-là, j'imagine que tu entends une théorie pratique, une pratique de la théorie. Donc, tu fais corps avec l'objet en théorisant lorsque tu affirmes faire de la théorie dans tes conversations et tes nombreuses entrevues, notamment avec Baudrillard et Virilio. Il y a quelque chose du « foreign agent » en toi, dans tes rapports dialogiques, comme tu l'as déjà dit par ailleurs. Tu fais parler les autres pour disparaître et devenir autre. Avec ces conversations, tu as fait quelque chose de formidable qui prouve ta très grande cohérence dans ta manière de faire de la théorie. Par exemple, au moment où Todorov, lui, découvrait au début des années 80 à Paris le principe dialogique de Bakhtin, dans un ouvrage traditionnellement théorique, toi, tu semblais pratiquer ce principe-là à New York et ailleurs. Ce qui confirme, me semble-t-il, ce que tu dis souvent, « Americans didn't need theory because they were living in theory. » Donc, sur ce point, je crois que tu es devenu, en fait, américain. Sur ce point. Donc, pour mettre en place les choses de manière à converser sur ta façon de faire de la théorie, pour faire, en te suivant la théorie, ou essayer de faire une espèce de théorie, la théorie conversation, j'aimerais que tu commences par le commencement en parlant de tes premiers contacts avec la théorie. L'origine de ton intérêt pour la théorie, quand tu as commencé à t'intéresser à la théorie.
Je me suis toujours intéressé à la théorie. Enfin, toujours. Disons, à partir du moment où je suis arrivé en Sorbonne, à la fin des années 50, j'étais simultanément impliqué dans le mouvement étudiant, parce que je suis un des dirigeants étudiants pendant la guerre d'Algérie, donc j'étais toujours un peu sur la brèche. Et aussi parce que j'étais... Je travaillais à la Maison des Lettres de la rue Férou, qui n'existe plus maintenant, mais qui était l'organisme culturel de la Sorbonne. Et donc, je travaillais avec Olivier Burgelin, qui est un sociologue, et j'étais son adjoint, et j'étais chargé d'organiser des conférences, des cycles de conférences. Et donc, dès le début, j'ai essayé de voir ce qui se passait, puis d'inviter des gens. Donc, j'avais invité ce qu'on appelait la nouvelle critique, Starobinsky, Poulet, Jean-Pierre Richard, etc. J'avais appelé ça la nouvelle critique. Il y avait aussi la critique d'interprétation, j'avais appelé ça. Et donc j'avais une fois par semaine, j'avais un cycle d'une dizaine de conférences qui suivaient pendant un mois, deux mois. Ou bien j'avais invité des gens, bon, il y avait les gens tels quels, etc. etc. Donc c'était déjà le niveau pré-théorique. Ça, c'était avant la théorie. Si j'avais connu Barthes très, 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 très tôt, puisque je l'ai rencontré à la Maison des Lettres quand il avait commencé le système de la mode, qu'il a traîné comme ça, comme un boulet pendant 15 ans. Et c'est un jeune sociologue. Et donc, et lui, je l'ai découvert en 61, parce que quelqu'un avait attiré mon attention quand j'enseignais en Écosse. Il m'a dit, tiens, il faut que tu lises le degré zéro de l'écriture. Mm-hmm. Donc, même si la théorie structuraliste n'était pas encore formée, ça c'était pré-66 tout de même, c'est là le 64-66, c'est quand le structuralisme a émergé en France en tant que tel, avec, avec la pensée sauvage de Lévi-Strauss, etc. Donc avant ça, j'étais déjà orienté là-dessus. C'est le hasard qui a fait les choses, en fait. C'est un petit peu ce que je vais essayer de suggérer. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai conçu des choses, c'est que j'ai conçu les choses quand j'ai été forcé de le faire. Tu comprends ? Et quand j'avais aussi la capacité de la mettre en œuvre. En France, c'était donc, bon, je travaillais pour les Françaises avec Aragon, enfin, j'étais un peu critique littéraire, etc. J'étais jeune, hein, mais comme tu dis, j'ai rien renié. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis intéressé donc à ces choses-là, et puis c'est un petit peu le hasard qui a fait les choses. Comme je faisais des comptes rendus de ce qui se passait en Angleterre pour les Françaises, j'ai découvert, j'étais l'ami de Nathalie Sarraute, etc. Donc j'ai découvert la littérature anglaise très, très tôt. Et donc j'ai fait ma thèse sur Virginia Woolf, que personne ne connaissait tellement à l'époque. Or, je faisais des études de lettres, et comme j'avais une thèse en anglais, les Français n'ont pas voulu de moi, en lettres. Les Anglais n'ont pas voulu de moi en lettres étrangères, parce que je n'étais pas un spécialiste des lettres étrangères. Donc j'ai été entre déjà l'agent
déjà
étranger,
entre deux.
Et en désespoir, j'ai téléphoné à Goldman et à Barthes, et mm-hmm. Goldman m'a dit, je viens de prendre, mais moi je connais pas un mot d'anglais, je dis, ça fait rien. Et il n'avait jamais lu Virginia Woolf, il a lu juste ça dans la soutenance de thèse. Mm-hmm. Donc du coup, j'ai quitté la Sorbonne, je suis arrivé à l'école des hautes études, où le structuralisme a commencé.
Donc tu avais vraiment l'impression de participer à tout ce mouvement, oui. Tu étais au début
J'ai suivi les cours de Barthes quand il faisait les premiers textes, les premiers cours sur la sémiotique, etc. Avec Goldman, c'était quand il faisait les choses sur le nouveau roman, sur la sociologie d'Auxerre. Donc j'ai été très connecté au début du mouvement structuraliste. Et puis, suraliste, autre chose. Et puis ensuite, une des raisons pour lesquelles je faisais mes études, c'est que je ne voulais pas qu'on m'envoie en Algérie. Comme j'ai dit, je suis mm-hmm. une victime de la guerre à beaucoup de titres.
Oui, bah avec Virilio, vous l'avez développé beaucoup.
C'est ça. Mais lui, il parle toujours, je suis un war baby. Mais moi, il se trouve que je suis un war baby aussi, parce que je suis né en 38. Donc j'étais pendant la guerre en France. Pendant sous l'occupation, comme je suis juif, j'étais caché, j'avais un autre nom, j'ai toute une histoire, mm-hmm. une archéologie quelque part, qui explique aussi pourquoi je ne suis pas resté en France. Mm-hmm. Parce que...
Donc sur ce point, donc ton approche structuraliste au milieu des années 60, tu l'as poursuivi
Alors je l'ai poursuivi, ma thèse est un peu tout de même structuraliste, un peu dialectique, ça, comme c'était entre Barthes et Goldman, mais j'ai terminé ça. Donc je suis venu aux États-Unis pour la première fois en 61-62 parce que je me préparais à déserter.
Si tôt Parce oui. que ça se fera en 72
Non, c'est en 62 que je reviendrai, oui. Alors je suis venu en 61-62 en me disant, bon, j'ai essayé de pousser, j'ai fait un troisième cycle, j'étais aussi loin que je pouvais ouais. dans mes études pour qu'on ne m'envoie pas tout de suite à l'armée. Et je me suis dit, bon, quand je suis parti aux États-Unis en 61-62, je dis, je resterai aux États-Unis. Or, la paix d'Évian a été signée en 62, mm-hmm. à mon retour. Et à ce moment-là, j'ai terminé ma thèse en Turquie. J'étais envoyé comme coopérant en Turquie. Mm-hmm. Et donc, j'ai terminé ma thèse en Turquie. Non, ensuite, je suis allé en Australie. Je suis passé 2 ans. En 68, j'étais en Australie.
Ouais, voilà.
Mai 68.
Et
j'enseignais ce qu'on appelle la théorie structuraliste. Ouais, c'est ça.
Si on veut mettre des noms.
Ça. Donc, en somme, il y a eu un décalage parce que moi, pendant la deuxième partie des années 60, j'étais à l'étranger. Mm-hmm. En Amérique, j'étais en Australie, etc. Et donc, quand je suis revenu aux États-Unis, j'ai eu beaucoup d'offres parce que précisément, personne ne pouvait enseigner la théorie. Or, dans les bastions les plus avancés, ça commençait tout de même, ils commençaient à comprendre que ça existait. Donc, il y avait Cornell, Yale, etc. Et moi, j'étais engagé dans un petit collège qui semble le meilleur aux États-Unis, qui est à côté de Philadelphie, qui s'appelle Swarthmore. Et j'allais sans doute y rester, mais heureusement, il y a eu le 68 des Américains, et donc une révolte sur le campus, le président, une crise cardiaque, etc. Et j'ai été éjecté dans la nature au bout d'un an. Je me suis retrouvé dans le Midwest. Et comme j'étais un peu isolé, j'ai créé des écoles d'été en France, d'abord à Vichy, puis ailleurs. Et comme j'avais été un peu décentré par rapport aux gens avec qui j'avais travaillé, j'en ai profité pour inviter tous les gens que je ne connaissais pas, dont je ne connais pas très bien le travail. Donc j'avais invité Denis Ollier pour qu'il parle de Bataille, d'Artaud. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à Artaud.
Et c'est inconnu ici, aux États-Unis, ces cours sur Artaud, sur Bataille, c'était des écrivains inconnus.
J'ai publié le premier numéro de Bataille dans ses mieux textes. C'est Denis Ollier qui l'avait fait. On a été les premiers à publier Bataille. Mais je n'ai pas voulu publier dans les petits livres que j'ai fait après, parce que pour moi, le créneau théorique est très précis. Et Bataille, c'était un grand écrivain, etc. Mais c'était les années 60 et eux, ils travaillaient sur la religion. Bataille, Artaud, Simone Veil, etc. C'était des gens qui ont préparé la théorie des années 60-70. Mais à ce moment-là, les principes ont été différents. Bon, le joint serait peut-être entre les deux, serait Foucault qui s'intéressait beaucoup à Bataille, Klossowski, etc. dans ses périodes littéraires. Et puis il a découvert, à travers Bataille, il a découvert Nietzsche, et puis il a laissé tout ça derrière, la transgression, tout ça. Or, moi, j'ai bien vite compris que ce qui m'intéressait, c'était ce qui m'intéressait personnellement. C'était Artaud, Bataille, la religion, parce que j'ai mon compte à régler avec pas mal de choses, dans la religion chrétienne. Et ses rapports au fascisme, etc. Mais enfin, ça, c'est mon travail personnel. Mon travail public, ça a été même d'introduire la théorie française aux États-Unis. Donc, j'ai d'abord organisé ces écoles d'été, qui a culminé dans...
Ça, c'est de quelle année, on pourrait dire en...
C'était de 70 au 72. Donc, j'étais déjà rodé. J'avais déjà fait deux écoles d'été, où j'avais invité Catherine Baquès-Clément, Jean-Louis Schaeffer, Todorov, etc. J'étais très copain avec ces gens-là, Gérard Genette. Et donc, c'est eux qui m'ont fait entrer à Columbia.
Ok, très bien.
En le sent indirectement.
Donc, vos relations étaient tout à fait de la pensée française, de la fin des années 60.
Exactement.
Des grands noms, évidemment.
Todorov, et donc, je suis arrivé avec la recommandation d'Odorov à l'Université de Columbia, qui est resté très structuraliste. Ouais. Mais Rifater avait mis, ça c'est le côté universitaire, il avait même formé des jeunes, des graduates, des assistants, etc., qui étaient des sémioticiens. Et moi, je n'avais jamais travaillé avec des sémioticiens.
Non, c'est ça. Là, il y a eu un passage du structuralisme à la sémiotique. Exactement. Parce qu'à Columbia, vous aviez tenté de mettre sur pied une sémiotique matérialiste.
C'est ça, oui.
Donc, qu'était cette idée?
Laisse-moi terminer sur cette petite histoire d'abord. Parce que ce qui s'est passé, c'est que cette école d'été, c'était un moyen pour moi de me recycler. Parce que j'étais structuraliste bon teint, mais je ne connaissais pas Derrida, je ne connaissais pas Lacan, etc. Donc j'ai invité tous ces gens-là. Et mes étudiants ont pris des cours, moi j'ai pris le contact, j'ai assisté à leurs cours, je me suis un peu mis à jour, comme ça. Et donc j'étais pendant un moment très derrido-lacanien, qui était un peu ce qui s'est développé en Amérique pendant les années 70 et 80. Mais enfin, moi, j'ai été, pendant un ou deux ans, j'ai un peu assimilé Derrida, j'ai écrit un texte pour lui, etc. Mais il y avait quelque chose qui me retenait. C'était pas ce que je voulais. Parce que je commençais à connaître New York. Or, Lacan, les choses ne sont pas refoulées de cette manière-là aux États-Unis. Et Derrida, les gens ne font pas attention au texte de la même manière. Et le texte pour les Américains était une manière de rester à l'université, de revenir à l'université avec un grade supérieur. Parce que tous les gens des départements de français, d'anglais, etc., se sont dit « Ah, nous, on faisait de la critique, maintenant on ne fait plus de critique, on fait de la fiction théorique. » C'est ça. Donc c'est une certaine manière de faire la même chose, de revenir au texte, de revenir aux footnotes, etc., aux notes, tout ça, mais en se sentant un peu plus digne intellectuellement. Alors ça ne m'intéressait pas spécialement. Et donc, ce que j'ai fait, le tournant, ça a été que j'ai organisé une école d'été à Columbia pendant 2 ans.
C'est à Paris.
Hein. C'est ce qu'on appelle, c'est la Weed Hall. Mm-hmm. C'est la maison de Columbia, qui est très belle d'ailleurs, c'est une ancienne écurie. Et pendant 2 ans, j'en ai profité, comme j'étais à Paris même, j'en ai profité pour inviter tous les gens qui étaient à Paris. Donc j'ai invité Guattari en 72, il venait à peine de publier l'Anti-Oedipe, je ne le connaissais pas, donc tiens, pourquoi pas lui demander de venir. Je voulais inviter un éventail de gens qui représentaient la théorie française. Alors, j'ai invité Guattari, Catherine Clément, que je connaissais déjà, j'ai invité Jean-Louis Schaeffer, qui était proche de Telquel, Denis Ollier, Serge Leclerc, qui était proche de Lacan. Et donc, tous ces gens-là, ça s'est su à Paris. Ça commence à se voir, parce que tous les milieux sont très antagonistes les uns par rapport aux autres, mais très connectés à ce qui se passait chez les autres. Donc il y a eu cette rumeur que j'avais invité Guattari à Weed Hall, automatiquement, mais aussi j'avais Serge Leclerc qui était là. Donc Lacan l'a appris. Donc Lacan a proposé de venir parler à mes étudiants, comme ça. Ça, c'était pas prévu au programme. Serge Leclerc emmenait mes étudiants à l'école freudienne.
Donc, vous avez parti un mouvement qui...
En fait, la théorie française est née à Paris.
Oui.
C'est la théorie française à l'américaine, elle est née à Paris. C'est ce que je voulais dire.
À l'américaine,
oui. Oui,
donc, on va appeler la French
Parce théorie. Que j'ai importé les étudiants. Les étudiants américains, ils étaient là, à Paris. Et donc, il y a eu cette espèce de concours de circonstances qui fait que... Bon, Lacan a voulu venir pour ne pas laisser la place... À Guattari, etc. Guattari a invité Deleuze, qui est venu parler aux jeunes en se disant « Mais la philosophie, c'est fait pour intimider les jeunes, il n'y a que les jeunes qui nous comprennent, etc. » Ce qui est vrai et pas tout à fait vrai. Mm-hmm. Et donc, il y a eu... j'ai fait coexister des gens qui ne coexistent pas ailleurs.
Et comment réagissaient ces étudiants américains
Pas mal d'entre eux sont devenus des gens qui ont travaillé dans les théories pas presque, ils ont eu cette formation. J'avais aucune idée de ce que c'était au départ, mais enfin, les Américains, ils se rattrapent, ils se rattrapent au tournant et ils continuent. Donc, ça a été une bonne dose de théorie. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans. Mm-hmm. J'ai demandé à Guattari de revenir. Entre-temps, je suis devenu très copain avec Guattari. Et il m'a un peu ramené à mes origines politiques, parce que se balader dans le monde, en Turquie, en Australie, etc., j'ai été un peu coupé de tout, quoi, c'est simple. Mm-hmm. Donc il m'a ramené un petit peu à l'aspect politique que j'avais eu avant 68, mais pas... Et donc j'ai pas vécu 68, et quand je suis revenu en France à la fin 68, j'ai découvert que c'était fini 68, les gens n'étaient plus politiques, ils étaient découragés, moi j'ai jamais été découragé.
Pourquoi tu dis qu'heureusement tu n'étais pas à Paris en 68.
Ben oui, parce que j'aurais eu ce moment d'explosion que ça, comme tout le monde a eu, puis ensuite on est retombé dans le marasme plus complet. Les gens ont trahi après. Ils sont devenus des politiciens, ils sont devenus bon. Donc ils ont un peu laissé tomber tout ça assez rapidement. Même chose ici en Amérique. Quand je suis arrivé à Columbia, je me dis Columbia, c'est là que 68 a commencé à Columbia, juste à côté d'Harlem, ouais. C'est là qu'il y a eu une explosion. Je suis arrivé à Columbia en 72, c'était complètement fini. C'était la bureaucratie, personne ne voulait prendre de décision pour ne pas antagoniser les étudiants, etc. Mais, donc j'ai tout raté.
Tu essayais de développer ce que tu as appelé une sémiotique matérialiste.
Non, ça c'est plus tard.
Ah, c'est plus tard, c'est pas durant...
Non, c'est 72-73. L'année 72, ouais. Je suis arrivé à Columbia, je suis resté un an à Columbia. J'ai eu un an de congé que j'ai passé en France. C'est là que Sémiotex a été publié la première fois en France.
Dans la revue de Félix.
Dans la revue de Félix, qu'il leur manquait un numéro de revue pour avoir une subvention gouvernementale. Donc, ils ont payé un numéro de luxe avec un papier magnifique que j'ai consacré à Ferdinand Saussure. Et Félix s'intéressait beaucoup à la sémiotique un peu déviante. C'est celle de Yemjelev, c'est pas celle de Saussure. Et donc, on est devenus très copains par là, mais j'ai découvert aussi, bon, je suis revenu, il y avait le groupe de recherche, il y avait la Borde, donc j'ai été à la Borde, j'ai vu la clinique, j'ai vu les groupes avec les fous, enfin, etc. Bon, donc ça m'a branché sur l'histoire, sur les années 60, qui est la folie, la prison, etc., tous ces gens-là. Donc, je suis revenu à New York, et en 75, j'ai fait un grand... C'était mon retour de France.
Et 75.
En 75. Mmh. Et moi, j'avais en tout et pour tout passé qu'une seule année à New York. C'est pourquoi, quand John Reichman était un étudiant de philosophie, lui s'est chargé d'inviter les Américains. Moi, j'invitais les Français. Non, je
connaissais
pas le contexte.
De John.
Je connaissais Columbia, c'est tout. J'étais jamais allé à New York. New York, c'est pas Columbia. Columbia, c'est en haut de la ville. New York, c'est le downtown. Je connaissais pas le downtown à l'époque. Et donc, on a un peu invité. Alors, ça s'est fait comme ça. Semiotech est parti avec $500, donc on n'avait pas d'argent du tout. Et on a réussi à monter une réunion internationale de la dernière réunion de contre-culture, comme a dit Foucault. Mais ça s'est fait comme ça. Foucault, j'étais en contact avec lui, il était au Brésil, et il avait des choses à dire sur la torture au Brésil. Il voulait rentrer en France, il m'a dit « Bon, bah, écoutez, je ferai une escale à New York parce que je voulais consulter un manuel du 19e siècle de jésuites qui n'est qu'à la New York Public Library. » Donc il est venu, mais on n'a rien payé. Guattari, Deleuze sont venus à leurs propres frais. Lyotard, lui, je pense qu'il avait un livre qui a été publié, ses tout premiers livres qui étaient très École de Francfort, était publié en maison d'édition marxiste. Il s'est retrouvé en même temps. Donc j'ai invité tous ces gens-là. Roland Lang était en train de faire une série de conférences à Boston. Je l'ai appelé, je l'ai racolé, etc. Donc c'est devenu.
Psychiatre anglais.
Anglais, oui, bien sûr. Oui. Anti-psychiatre.
Donc anti-psychiatre, oui. Et.
Les Français, les Américains.
Pas les Américains.
Sauf Burroughs.
Sauf Burroughs.
Mais je ne le connaissais pas. Il venait juste d'arriver de France et de revenir aux États-Unis. Donc l'idée de parler à des étudiants, etc., il n'avait pas de contexte encore. Donc il est venu tout de suite comme ça. Personne n'a demandé d'argent. Ça s'est fait comme ça. Et ça a été une explosion incroyable. Incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'il y avait, les gens sont venus, ils parlaient tous. Le Village Voice, qui est le journal comme ça qui se répand beaucoup à New York, qui existe toujours, a dit c'était une grande réunion de sémiotique, etc. Comment on s'appelle sémiotexte, donc on dit sémiotexte sémiotique. C'était pas faux à l'époque, mais j'étais en train de changer parce que j'étais déjà plus structuraliste. Pourquoi j'ai pas publié mes textes structuralistes et tout ça, j'ai bazardé tout et je commençais à m'intéresser d'abord à Lacan et Derrida, puis surtout à Deleuze, Guattari, parce que je suis devenu très proche de.
Donc la circulation des signes dans la société, la question aussi du capitalisme, comment on vit dans le capitalisme.
Oui, alors c'était au départ. Bon, revenons à cette histoire de sémiotique matérialiste.
Oui.
Quand je suis arrivé, Rifater donc avait formé toute une série de jeunes. J'étais le plus âgé d'entre eux. Et puis, on était en fait très proche, beaucoup plus proche d'Althusser. D'Althusser, du cercle de la rue d'Ulm, etc. On se posait des questions épistémologiques. Qu'est-ce qui est à l'origine de. Comment est-ce que les choses se sont formées, etc. Et donc, moi, on était revenu aux Saussure, aux deux Saussure, le Saussure fondateur de la science des signes, dans la société, qui est la sémiotique, et puis le Saussure qui était un peu fou et qui cherchait le secret. Cachés dans les textes poétiques,
etc., les anagrammes
et tout ça.
À partir de là, tu as fait quelque chose ensuite sur...
Alors, j'ai fait ces deux numéros sur Saussure, dont un sur les anagrammes. J'étais allé à Genève, j'ai étudié les manuscrits de Saussure, et c'est comme ça que j'ai écrit ces textes. J'ai fait ce numéro sur Saussure. Puis j'ai ramené des tonnes de copies des manuscrits de Saussure. Et je voulais faire un travail sur les hymnes védiques, etc., tout le travail de Saussure là-dessus. Mais malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas de Xerox, il n'y avait pas de photocopie. Donc j'ai contacté une spécialiste de cette époque-là à Princeton, et je dis, on va travailler ensemble, moi je ne connais pas, je peux pas lire les choses, je peux pas lire les hymnes védiques dans le texte.
Ouais.
Donc, elle m'avait demandé de lui envoyer les textes. Je lui ai envoyé les textes et rien n'est arrivé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle les a perdus. donc, du coup, je n'allais pas retourner à Genève pour refaire tout ça. Donc, j'ai laissé tomber l'histoire de Saussure.
C'est la folie qui pénètre dans la science.
C'est ça. C'est bien le rapport de la science et de la folie. Oui. Et c'est toujours ce qui m'a intéressé. Donc, ça m'intéressait de voir un petit peu... Bon, qu'est-ce qui se passe quand les choses déraillent. Et ne pas voir forcément ça comme un déraillement, mais comme une espèce d'ouverture sur autre chose qui échappe peut-être un petit peu à la raison, mais qui c'est parce que la raison est trop limitée. Hein, ou la logique, etc., ou la conscience. Donc ça m'intéressait tout ça, mais je ne voulais pas non plus apporter trop de structure là-dedans, comme Lacan.
Et éviter également peut-être un romantisme de la folie.
Tout à fait, tout à fait. Alors, schizoculture, ça a été de la folie, ça c'est clair. Ça m'a pris des années à m'en remettre. Ça a d'ailleurs été une très bonne chose, parce que le seul moyen de comprendre la folie, c'est de devenir fou. Et pendant quelques années, j'étais un peu dans tous mes états. Hein. Parce que je me suis retrouvé tout seul à New York, je ne connaissais personne. J'ai rompu avec l'université après les scandales de schizoculture et des attaques. Il y avait pratiquement Foucault était agressé. On avait des gens qui accusaient tout le monde de faire partie de l'acier, etc. J'ai été brûlé pendant quelques années à l'université. C'était seulement ce que je connaissais.
Oui, est-ce que Cusset, quand il décrit pendant l'événement schizoculture, donc. On avait dit que Foucault travaillait à la solde de la CIA, donc ils étaient partis, ils étaient enfermés dans leur chambre d'hôtel, très fâchés.
Oui, c'est bon, c'était Foucault est venu bénévolement. Mm-hmm. J'ai eu un breakfast avec lui, un petit déjeuner, etc. Il était un peu surpris que notre système d'accueil, etc., n'a pas fait au point, mais j'avais mes étudiants et puis. Et puis on était deux pour organiser tout ça. Et ça c'est devenu, on a eu toute une presse, les gens sont venus de l'étranger, il y avait des reporters, il y avait des photographes, enfin, c'est devenu un grand événement médiatique. Mm-hmm. Je ne m'attendais absolument pas à ça, on comptait sur 60 personnes, on a eu 2000. Ouais. Et donc, du coup, moi je ne connaissais pas New York, mais New York est venu.
Ouais.
Il est venu à Columbia, en haut. Et chaque jour, on avait 1000 personnes, et ça a été... c'était...
Mais ça, vous comptez sur... qui avait fait ce travail de...
Jean-Jacques Lebel, en grande partie.
Le nom, ouais.
Parce que Lebel, c'est
le... Il connaissait tout le monde.
Tout le monde, il est franco-américain, il a parlé toute la semaine qui précédait à WBAI, qui est la radio comme ça un peu marginale. Et donc tous les radicaux écoutent, etc. Et puis par les journaux, ils ont appris aussi, parce que les journaux s'en sont emparés. Et donc les gens sont venus. Et comme on n'avait pas d'argent, il a bien fallu les faire payer. C'est un peu une anecdote, un détail. Mais quand on fait payer les gens 20 dollars pour participer à quelque chose, ils en veulent pour leur argent. C'est,
ouais.
Les New-Yorkais, hein, c'est des gens très ouverts, très bien, mais ils en veulent. Alors, à partir du moment, il y a par exemple, il y a un moment, bon, Deleuze ne parle pas anglais, Foucault a fait lire son texte par un ami, qui l'a traduit. Guattari avait une très vague notion de l'anglais, et donc il a fallu qu'on ait des traducteurs. On avait 5 traducteurs qui traduisaient simultanément, etc. C'était incroyable. Et donc ça prenait du temps, tout ça. Alors Félix s'emmerdait un peu, il a dit à un moment, bon, bah écoutez, surtout, il n'aimait pas que les gens lisent leur texte pendant une heure, ça ne passait rien pour lui. Ouais. Donc il s'est levé, il a dit, bon, bah écoutez, on va demander aux gens qui donnent des conférences de résumer leurs conférences en 10 minutes, et puis faisons des discussions. Alors, ce n'était pas si simple, les gens avaient préparé leur conférence, ils voulaient la lire. Mm-hmm. Alors le public s'est cassé en deux, et la moitié est restée pour écouter les conférences, les autres qui ne voulaient pas rester sont allés avec moi... Félix et Foucault dans une autre salle, plus petite, où tous les gens qui voulaient discuter se sont réunis. Et donc, c'était déjà des tensions entre les gens. Et puis, il y avait ce qu'on appelle le Lebe-Comité. Lebe-Comité, c'est... comment il s'appelle déjà c'est cet homme qui s'est présenté plusieurs fois aux élections, etc., qui se présentait un peu comme critique des institutions ultra-gauche, etc., qui en fait, on l'a découvert, était payé par la CIA, et dont le travail était de venir semer la zizanie dans toutes les réunions de la gauche. Alors, comme ça a été présenté comme une grande manifestation de la contre-culture en 75, les Américains, c'était fini la contre-culture.
Ouais.
Donc, tout le monde s'est précipité là-dessus. Et donc, on a été plein de radicaux américains qui étaient marxistes jusqu'au bout, mm-hmm. qui étaient très hostiles à Deleuze, Guattari, Foucault. C'était des gens... ils connaissaient Foucault, mais les autres, ils ne connaissaient pas, et puis ils ne voulaient pas connaître. Mm. Donc, il y a eu pas mal de clashs là-dessus, d'opposition. Et puis, les gens du Lebe Comité sont arrivés. Ils ont d'abord accusé Foucault d'être payé par la CIA. Ils ont accusé Ling aussi. Le premier jour, c'était quelqu'un qui se trouvait que je connaissais, qui enseignait dans le même lycée, dans le même collège que moi, à Swarthmore, mais qui s'est fait liquider par le collège, qui s'est fait pris dans cette secte, et qui parlait très bien français, il était français, parlait très bien américain aussi, s'est levé, accusé, etc. Et Foucault est devenu fou. C'est ça, il était sur le trottoir pendant des heures, mais il était hors d'état, il m'accusait de tous les trucs, il disait « qu'est-ce que c'est que le public américain ? Mais c'est la pire des choses que j'ai jamais vues, je ne reviendrai pas demain », où il était censé parler avec Warren Lang, etc. Il y avait un panneau, des tables rondes, il dit « non, je ne reviendrai pas ». Toute la nuit, il n'a pas pu endormir, et il est revenu. Miracle, il est revenu le matin, il avait l'air très à l'aise. Et puis quand un gros noir s'est levé pour l'accuser de nouveau de faire partie de la CIA, d'être payé par la CIA, il dit « mais oui, bien sûr, je suis payé par la CIA, mais j'ai l'autre ingé qui nous a invité, payé par la CIA. Tout le monde ici est payé par la CIA, sauf vous, parce que vous êtes payé par le KGB. » Alors du coup, toute la salle arrive, parce que le problème de Foucault...
Mais ça peut-être détendu la...
Tout à fait, parce que le jour d'avant, Foucault n'y s'y attendait pas, et donc après la conférence... Les gens sont venus nous voir et disent « mais c'est vrai, monsieur Foucault, que vous êtes payé par la CIA ?» Alors, il est devenu fou.
Parce qu'effectivement... Donc, on lançait des affirmations.
Tout à fait. Alors, ils avaient réussi leur coup. Ouais. Qui était de... Et c'est effectivement, il y a eu un détonateur et tout le monde était les uns contre les autres. Les Américains, alors, les radicaux contre Deleuze et Guattari, Tigresse Atkinson, qui était une féministe de choc et anti-homme, pratiquement, qui était prête à les tuer, donc elle s'est débarrassée de Guattari, tous les Français se sont réunis au Chelsea, avec John Richmond précisément, qui était mon collègue, mon coéquipier.
C'est lui qui avait organisé
le côté américain. C'est lui qui avait invité Tigresse Atkinson, John Covell, le psychiatre américain. Moi, je ne les connaissais pas. Et donc, moi, j'étais un peu pris au dépourvu. Bon, au lieu d'essayer de faire un front et puis d'essayer d'expliquer aux Français ce qui s'est passé, les Français sont partis très en colère, ils sont tous réunis. Alors là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu dire sur mon organisation, etc.
Cet événement qui est très peu, dans son fondement, très peu structuré, c'est-à-dire
non,
que...
c'était sur la folie et la prison. Attends, c'est pas on tout, était, parce qu'il y avait près, la femme qui représentait les prisonniers, les ex-con, comme ils appellent ici. Bon, elle vient parler, on a eu un panneau très, très intéressant avec Foucault, etc. Bon, et elle, après, elle disparut. J'ai cherché pendant un ou deux ans pour ce que je voulais qu'elle corrige les transcriptions de discussion, etc. Pas question de la voir. Et puis un ou deux ans après, elle était rentrée dans la clandestinité, elle était rentrée dans la Black Panther Party, et elle avait été arrêtée avec les autres, elle est toujours en prison d'ailleurs. Elle a été arrêtée parce qu'ils ont attaqué un des camions qui trimballait du fric dans le New Jersey, et ils ont tué un flic, etc. Ça a été très mal. Et donc, en plus de ça, il y avait ce côté-là. Donc, il y avait un peu de tout. Et en ce sens-là, ça représentait vraiment l'Amérique. C'est que ça a été... C'était pas l'accueil de la théorie française. Il y a eu deux sorties de la théorie française. La première, c'est en 1966, à Johns Hopkins, qui était là.
Avec Derrida.
Qui était déjà une surprise, parce qu'en 1966, ils ont fait venir non seulement... Ils voulaient faire une conférence, une réunion sur le structuralisme en France. Et ils avaient donc Lévi-Strauss, Barthes, etc., et Lacan. Mais celui qui a fait le plus d'effet, c'était Derrida, qui les a tous soufflés.
Oui, avec son idée de structure ouverte. Ben oui,
c'est ça. Alors, il a tout de suite mis en question le structuralisme. Donc, le structuralisme est mort-né aux États-Unis. Et le seul endroit qui restait, c'était à Columbia, où je suis arrivé. Et donc, Columbia était isolé par rapport à ce qu'on appelle le triangle sacré, qui était Yale, Cornell et Hopkins, où il développait ce que j'ai appelé le déridolacanisme. Or, moi, je n'étais pas dans un milieu qui était déridolacanien. Et on est passé directement, donc je reviens sur cette sémiotique matérialiste. C'est très simple, c'est cette idée que Saussure, dans son cours de linguistique générale, avait dit « bon, la sémiotique, elle devrait être fondée sur une pluralité de langages, pas seulement le langage verbal, mais sur tous les langages visuels, les langages gestuels, etc. » C'est ça la sémiotique. Et donc, c'est simplement pour rendre les choses plus faciles que je donne comme modèle à la sémiotique la linguistique. En fait, la linguistique, c'est même une réduction de la sémiotique. Et le prendre, que ce soit une des langues, c'est parfait, un des systèmes sémiotiques, d'accord, mais c'est en droit, la linguistique, c'est même une simplification de ce que la sémiotique devrait être. Donc nous, on s'est attaqué à ça en disant, bon, bah, qu'est-ce que ça serait une sémiotique qui ne soit pas une sémiotique idéaliste, parce qu'on était très marxo, etc. À l'époque, ça ne coûte pas grand-chose d'être marxiste à l'université. Ça veut dire simplement qu'on a des opinions et qu'on écrit des critiques. On était un peu comme ça, c'était universitaire, on faisait des commentaires. Et donc on a dit, bon, bah, alors on a cherché du côté d'Althusser pour voir qu'est-ce que c'est, quel est le fondement d'une science, on prenait Bachelard, etc., etc.
Très épistémologique.
Très épistémologique, très, très, très idéologique, comme ça. Et puis, le groupe s'est dispersé assez rapidement parce que c'était des jeunes universitaires qui ont dû trouver du travail de partout aux États-Unis. Donc, je me suis pratiquement retrouvé seul. J'avais perdu John Rashman parce qu'on s'est un peu fâché après cette affaire-là, comme il ne m'avait pas défendu.
Avec l'événement schizoculture.
Bah oui, oui, même il m'avait un peu trahi, quoi. Alors, j'ai dit, bon, on ne va pas casser. Ah oui, c'est ça. 2 ans plus tard, quand j'ai voulu faire le numéro schizoculture, il est venu m'en voir, parce qu'on n'a pas parlé tout le temps. Alors, on va faire une introduction au numéro schizoculture.
Donc ça, c'est en 77, là, 2 ans.
C'est en 77, c'est ça. Alors j'ai dit, non. J'ai fait le numéro schizoculture, personne ne fera d'introduction, c'est le début d'arrêt de toute introduction. Personne ne fera plus d'introduction, mais si tu veux faire un numéro de sémiothèque, c'est parfait, mais tu le fais seul, avec tes gens. Moi je ne veux pas du tout me faire entuber encore une nouvelle fois.
Mais pourtant, les numéros de sémiothèque fonctionnent un peu comme l'événement schizoculture, c'est-à-dire collage, tout ça.
Oui, d'accord. Oui, mais non, c'est pas John Rashman, c'est un universitaire.
Ouais.
Donc, si c'est pas certain, ouvert sur le milieu artistique, mais c'est autre chose. Donc, lui, il voulait faire un numéro sur Fassbinder, le nouveau film allemand, etc. Je lui dis, parfait, fais-le. Mais ne me demande pas de m'en occuper. Moi, je ferai autre chose. Et il ne l'a jamais fait, donc on n'a jamais repris contact. Enfin, si, on a repris contact récemment. Ça, c'est la vieille histoire. Donc, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé pratiquement seul, sans aucun des membres de l'équipe du départ. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à enseigner la théorie à Columbia, et personne n'enseignait la théorie à l'époque. Donc, je devais enseigner Lacan, etc., etc. Et les premiers qui sont venus à mes cours, comme j'enseignais dans un département français, mais qu'on m'avait mis un peu à l'index dans le département, il a fallu que je commence à enseigner en anglais, autrement j'avais plus d'étudiants. Parce que
vos cours, au départ, étaient en français.
Bien sûr, je connais. Et pendant longtemps, l'américain, tout de même, c'était pas quelque chose que j'avais assez dominé, d'abord pour donner des cours en anglais, et puis ensuite pour écrire en anglais. Les premiers textes que j'ai écrits étaient traduits de l'anglais, en français.
Oui, ça c'est une chose sur laquelle j'aimerais revenir, la question de la traduction. On vous a jamais, ou on voudrait, c'est-à-dire qu'on vous lit en français, mais vous êtes traduit, on vous lit en anglais, vous êtes traduit.
Mais c'est assez caractéristique, on s'y perd un peu. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que comme on avait découragé les étudiants de mon département à venir à mes cours, j'ai commencé à enseigner en anglais, comme ça j'ai eu des étudiants de philosophie, d'anglais, etc., etc. Et c'est trouvé que c'est le moment où ils ont traduit comment ça s'appelle déjà, le film de livre de Christian Metz,
sur le cinéma.
C'est ça, le film imaginaire, non. Ça a été publié aux États-Unis à ce moment-là, et c'était le grand tournant de Christian Metz qui était devenu lacanien. Et donc, les gens qui avaient suivi les analyses structuralistes de Christian Metz avaient complètement lâché. Et donc, ils sont venus à mes cours. Mais c'était des étudiants du département de film. Or, il se trouvait que ces gens-là étaient en fait des artistes qui suivaient les cours ou qui donnaient des cours comme graduate student au département de film, pouvoir utiliser les caméras. Parce qu'en fait, c'était des gens de downtown. Et donc, ils faisaient des films qui sont devenus des films un peu des années 80, des films punk et star de l'époque. Mais donc ils sont venus à mes cours et sont venus mes amis. Hein. Puis j'aurais dit, tiens, si vous venez à mes cours, moi je vais venir aux vôtres. Donc j'ai suivi des cours de films pendant 2 ans, 2-3 ans. Et j'ai fait des films.
Est-ce que c'est votre premier contact avec le monde de l'art new-yorkais?
Tout à fait. Oui. Il y a eu 2 contacts simultanés. Le premier, c'était des gens qui n'étaient pas vraiment des universitaires et qui étaient à Columbia en film. Puis les autres, ça a été les premiers artistes qui se sont intéressés à la revue, ont commencé à s'intéresser à la revue quand on a commencé à mettre des illustrations.
redimensionner.
C'est ça, le premier numéro, c'était le numéro sur l'anti-Oedipe. On a mis pas mal de productions, d'œuvres Dada, etc., etc. Donc, Dada, c'est même... Je ne me rendais pas compte que Dada, c'est le monde américain. Je ne connaissais pas le monde américain. Automatiquement, quelques artistes ont dit, tiens, mais ça se passe des choses intéressantes, on va leur proposer nos services.
Donc, ils avaient eu accès à la revue.
Oui, elle a commencé à circuler.
Elle ne circulait pas dans le milieu universitaire, elle circulait un peu plus.
Oui, mais c'était dans quelques librairies de New York, etc. Donc, j'ai vu se pointer deux, trois artistes, m'ont dit, vous faites des choses intéressantes. Je veux dire, non, pourquoi, pas spécialement, etc. Si vous voulez, on peut vous aider à mettre les choses... Alors automatiquement... On avait un format qui était un peu petit, on a dit bah, ça serait mieux de faire un grand format. Okay. Et puis ils ont commencé à faire une mise en page un peu différente, etc. Donc on a commencé à travailler, on a toute une équipe qui s'est formée, avec là aussi des gens très différents, c'est tous ces artistes américains, mais il y avait deux peintres, alors que la peinture, personne ne s'intéressait à la peinture à l'époque. Les gens s'intéressaient à la photographie, à la vidéo et au film. Donc on avait beaucoup de gens qui étaient surtout du nouveau monde artistique. Mais il y en avait qui étaient aussi de vieux monde. En fait, c'est les gens que je rencontrais partout, dans les parties, etc. Dès que je voyais quelqu'un qui m'a l'air intéressant, on gardait le contact. Et puis j'ai fait une équipe d'une douzaine de personnes, qui n'étaient pas toujours ensemble, mais qui représentaient des courants déjà différents du monde de l'art. Celui qui était venu me retrouver était en fait devenu un des organisateurs du punk à New York, etc. Donc on a loué un loft ensemble, on était... Bon, il y avait des junkies qui venaient, c'était venu. Alors la scène a changé assez rapidement. Donc en fait, la revue, c'est tout naturellement que, comme j'étais un peu refusé dans le monde artistique, c'était pas de la mobilisation contre moi, mais j'étais pas tellement bien reçu. Et puis je me suis dit, bon, bah, finalement, il faut regarder ailleurs. Quoi.
Donc si on revient sur les théories, donc. De cette connaissance des penseurs français autour des années 72-73, réinvitation de ces penseurs français, donc en 75 avec l'événement Schizoculture, toujours dans un monde assez universitaire.
Oui.
Et là, il y a eu un changement vers le monde de l'art.
Bah c'est un changement sur les deux continents, hein, parce qu'après tout, moi j'étais devenu très proche de Félix, et Félix, c'est pas un universitaire tel
non,
et d'ailleurs, c'est pourquoi ça a pris très longtemps pour qu'on reconnaisse son travail.
Ouais.
Parce qu'il n'a jamais enseigné à l'université, il n'est pas de la famille.
Mais est-ce que c'est là, à ce moment-là, qu'on pourrait dire que, aussi, toute votre conception de la théorie va balancer également vers...
Et c'est aussi ce qui s'est passé entre-temps, c'est que, bon, après la folie de Saussure, je me suis retrouvé un petit peu délirant, moi aussi.
C'est quand t'es vieux.
Bah oui, c'est-à-dire que j'étais brûlé avec mes amis français, des théoriciens pendant un moment, j'étais brûlé avec l'université, je connaissais personne, et donc j'ai vécu la vie new-yorkaise, mais à son intensité la plus grande. Je dérivais dans cette ville. Et donc j'ai eu un contact avec New York, c'est New York qui m'a sauvé. Je suis devenu fou, j'avais pas eu New York. Oui. Et donc à ce moment-là, j'ai reterritorialisé la ville. C'est devenu vraiment ma ville. Paris, c'était fini, la France, c'était fini. À ce moment-là, j'ai eu une vision complètement différente des choses et les contacts que j'avais avec les gens, etc. Et j'ai commencé à comprendre ce que c'est que New York. Parce qu'il faut passer par New York, il faut payer le prix. On n'apprend jamais rien. On n'est pas né sans payer le prix. Et on n'appartient pas à une autre culture sans payer le prix. J'ai payé le prix à beaucoup de
gens. Donc on pourrait dire que New York, la ville même, a fait en sorte que... Il y a eu un tournant dans votre manière de penser, dans votre manière de voir les choses. Donc le structuralisme, évidemment, c'était loin.
Oui, c'était déjà lessivé, oui. Ouais. Cela dit, bon, ça va. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement que je me suis intéressé au monde artistique, mais le monde artistique est très différent à l'époque. Mais c'est aussi que j'ai vu le monde artistique comme faisant partie de New York. Et New York, c'était mon centre d'intérêt. Or, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ce monstre ? On parlait toujours du capitalisme, etc., mais il était là. C'était ça, on n'avait pas besoin, c'est plus dans les livres, chaque chose qui se passait, les choses très bizarres qu'il y avait dans les rapports aux gens, dans l'espèce de vie où on est seul et en même temps on peut être très, très ouvert, les gens sont très accueillants, mais en même temps c'est pas le même genre de subjectivité.
Quand on a une pratique...
Tout à fait, donc c'est un peu par la force des choses, c'est pas parce qu'on pense les choses devant son ordinateur que des choses arrivent. Le livre dit très bien, il dit on a des idées quand on est engagé dans un champ particulier.
Donc,
mon champ particulier, ça n'a pas été le monde artistique, ça a été New York. C'est pourquoi je ne me suis jamais engagé dans le monde artistique au point de faire partie du monde artistique.
J'avais fait commentaires, d'œuvres, etc.
J'ai compris assez rapidement. Donc, il y a quelques années, peut-être, mais qui est entre 75 et 83, où tout de même, j'ai l'impression, j'ai compris ce qui se passait. Et donc, j'ai compris avec mon esprit français, mais en ayant l'expérience américaine. Et donc, j'ai pas seulement fait une courroie de transmission, j'ai commencé à dire, bon, voilà, qu'est-ce qui peut intervenir pratiquement dans ce contexte que je connais, où le capitalisme est presque à découvert, dans sa folie.
Ouais. Donc, avant de découvrir New York, vous étiez déjà sensibilisé à la question politique, au capitalisme, mais de façon un peu plus dans les livres, c'est très théorique, très idéologique. Et là, tout à coup, vous le viviez.
Il y avait aussi, Deleuze, Guattari, c'était même le délire. Soudain, j'ai compris qu'être délirant ici, mais c'est normal, c'est les gens qui ne sont pas délirants qui ne sont pas normaux ici. Surtout à cette époque, New York c'est dangereux, on risquait de se faire attaquer à n'importe quel moment, les professeurs se faisaient attaquer, on les retrouvait avec un couteau entre les deux épaules à un bloc de l'université. Toute la ville, c'est une espèce de... C'était une aventure.
Mais en même temps, à côté de ce côté agressif et violent, il y avait tout un côté créateur.
Bien sûr, parce que tout était possible. C'était une ville qui était ouverte. C'était pas Rome qui était ouverte. Parce que les gens désertaient New York à l'époque. C'était sale, les chaussées étaient défoncées, il n'y avait pas d'argent. Une bonne partie de la ville était en terrain de vagues, etc. Et c'était vraiment... À ce moment-là, je vivais surtout beaucoup la nuit.